peux vous dire tout de suite, c'est pas très simple à comprendre, mais c'est plutôt difficile à formuler, c'est que l'expérience esthétique n'a pas toujours été perçue comme telle et pensée comme telle. C'est-à-dire que je suppose que toute l'humanité, depuis les temps les plus anciens, depuis presque peut-être même les premiers hommes néandertaliens ou les Homo habilis, ont eu des comportements artistiques. On voit quand on trouve des tombes historiques avec des petits objets qu'on appelle des curios. Mais c'est pas parce que l'humanité a toujours plus ou moins des expériences artistiques et esthétiques qu'elle est norme de cette manière-là. C'est-à-dire très souvent, les expériences de l'art, là je dis volontairement de l'art pour ne pas dire ni artistique ni esthétique, sont comprises, interprétées, elles sont perçues en d'autres termes. Alors, pour ne pas aller chercher très loin, comme vous le voyez là dans la diapositive, dans notre tradition européenne occidentale, eh bien, par exemple, dès Platon, vous en avez tous entendu parler quand on vous fait le cours qui est inévitable en quelque sorte sur le banquet, chez Platon, l'expérience esthétique, elle est comprise en des termes qui sont mélangés, puisque ça commence par une expérience érotique, le désir du beau corps, et puis que très rapidement, cette expérience esthétique, elle change de nature, elle devient une expérience d'ascension vers les idées, d'ascension vers le bien, et donc elle prend des allures, ce que j'appelle cognitives et mystiques, vous le voyez là, je l'ai fait. Donc, on la traite à la fois comme une expérience érotique, avec ce qu'elle a de plus sensuel, et en même temps, on passe très rapidement à une expérience de type cognitif, la connaissance des idées, et mystique même, la contemplation de l'un, des idées suprêmes, en oubliant la dimension esthétique. Il n'y a pas véritablement de moment esthétique chez Platon. On a exactement la même chose, mais en plus prononcé, chez un commentateur hellénistique de Platon, chez Plotin, qui lui consacre deux Énéades à des questions qui sont proprement des questions esthétiques, mais il les traite en des termes mystiques, c'est-à-dire que c'est la contemplation de la beauté, c'est la contemplation du beau suprême, la contemplation de l'un qui est source de toute chose et avec lequel le regard s'identifie. Je vous ai pris, c'est la diapositive suivante, une petite citation de Plotin dans l'Énéade 5, chapitre 8, section 10. Ceux qui n'ont pas la vision entière de la beauté n'accordent foi qu'à la seule impression qu'ils en recueillent, c'est-à-dire qu'ils la voient du dehors, ils la perçoivent, ils ont une sensation de la beauté. Ceux qui sont comme totalement gorgés, et les termes grecs sont assez forts, hein, gorgés, c'est-à-dire repus, hein, et enivrés de ce nectar, parce que leur âme aura été irriguée tout entière par le beau, ceux-là ne peuvent pas rester de simples spectateurs. Dans l'expérience esthétique, on perd son individualité, on n'est plus spectateur, il n'y a plus un être qui voit de l'extérieur, et de l'extérieur un autre être qui est vu. L'être qui a la vue perçante couvre en lui-même ce qu'il voit. C'est-à-dire l'être qui perçoit la beauté, s'identifie à la beauté en lui, ou se retrouve à l'intérieur de la beauté. C'est une très belle description de l'expérience esthétique, mais encore une fois, chez Plotin, c'est une description d'une expérience mystique et d'une expérience quasiment religieuse. Ça, c'est des textes de commentaires où Plotin commente le banquet de Platon. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que l'expérience esthétique n'est pas très souvent, je pense qu'elle est un universel pour l'humanité, mais elle n'est pas forcément appelée expérience esthétique, elle peut être expérience érotique, expérience mystique, expérience cognitive, expérience sacrée. Il y a beaucoup de manières de la comprendre et de la appréhender. Alors c'est pareil, je vous signale, dans la pensée médiévale, qui reste encore aujourd'hui une pensée très largement laissée de côté, parce qu'on pense que c'est uniquement la théologie, mais pratiquement tous les discours des théologiens, pour prendre deux grands philosophes théologiens, saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, tous les philosophes théologiens ont un discours sur la beauté, mais cette beauté n'est absolument pas une beauté esthétique, c'est la beauté de Dieu, c'est la beauté de l'homme, de la création, c'est la beauté de la lumière divine, et le beau s'identifie très rapidement au bien. Le beau, c'est l'ordre de la création divine. Donc, encore une fois, on parle d'expérience esthétique, Mais on en parle dans des termes qui sont des termes religieux, des termes, je dirais même, d'extase mystique, quelquefois. Vous avez tous entendu parler, parce qu'il est très connu médiatiquement, du Umberto Eco, le philosophe et sémiologue italien. Il a commencé ses études par ses travaux par une thèse sur les conceptions de la beauté dans la pensée médiévale, et il n'y a pas beaucoup de travaux sur ces questions. Alors, ça c'est une première remarque, c'est-à-dire, encore une fois, expérience esthétique, c'est pas évident. C'est évident pour nous, parce que nous vivons dans une époque qui est régie par l'esthétique, j'en parlerai plus tout à l'heure, mais on en a parlé en d'autres termes au long de l'histoire de l'humanité. Une seconde remarque que je veux faire, et là aussi très importante, et alors qui débouchera sur des choses beaucoup plus contemporaines, c'est que on peut parler de l'art de beaucoup de façons, et surtout on peut parler de l'art d'un point de vue qui est différent de celui de sa réception, et dit point de vue différent du point de vue de l'expérience qu'on en fait. C'est plutôt du point de vue, je dirais, de l'expérience que l'on fait quand on fait de l'art ou quand on pratique de l'art. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le domaine de l'esthétique est un domaine relativement récent dans l'histoire des idées européennes et occidentales. Ça remonte à mon avis pas plus loin que la fin du XVIIe siècle, et que pendant très longtemps, y compris à des périodes où il y a eu énormément de production artistique, on a parlé de l'art autrement, c'est-à-dire on a parlé en termes de poétique. Bon, le terme de poésie vient de là. La poésie, c'est faire quelque chose. Poétique, c'est-à-dire fabrication, production, et j'ai même mis cuisine. Ceux qui parlent de l'art, ce sont ceux qui le font, et ils parlent de leur pratique et de la manière dont ils la réalisent, des recettes qu'ils emploient. Alors, le mot poiesis vient du grec poien, du grec ancien poien, qui veut dire faire, pratiquer, fabriquer, produire, fabriquer des objets notamment. Et par exemple, si il y a un texte fameux d'Aristote, c'est la poétique d'Aristote. La poétique d'Aristote, c'est pas du tout une théorie de la réception esthétique, c'est une description des règles à suivre quand on veut faire de la poésie, quand on veut faire une épopée, quand on veut faire une tragédie. C'est un livre de cuisine en quelque sorte. C'est quels sont les critères que doit respecter une œuvre littéraire pour être une bonne poésie, pour être une bonne épopée, pour être une bonne tragédie. C'est encore une fois, je dis, des livres de recettes. La poétique est de la recette. Et alors, pendant des siècles, la théorie de l'art, elle s'est réduite à la poétique. Il y avait pendant des siècles, il n'y a pas eu d'esthétique. À la Renaissance, il n'y a pas d'esthétique à la Renaissance. Il y a beaucoup de livres, de traités d'artisans peintres, qui exposent leurs recettes. Comment on fait quand on veut peindre les morts, comment on fait quand on veut peindre la nature, comment on fait quand on veut peindre des êtres humains, comment on fait quand on veut peindre la tristesse, la joie. C'est des recettes de cuisine, y compris si tu veux peindre un mort, il faut que tu prennes telle ou telle couleur, et pas telle autre, que tu les mélanges à telle ou telle couleur, de manière à avoir une couleur pâle, et qui soit un peu froide, et qui soit refroidante d'abord. C'est ce que j'appelle les discours poétiques. Il y a un fameux traité de la Renaissance de Cennini sur la peinture qui est entièrement un livre du XIVe siècle, qui est entièrement un livre de recettes sur la fabrication des peintures et des fresques. Alors c'est intéressant parce que je vous disais, ça mène à des choses contemporaines dans la mesure où nous avons tendance à oublier quand on parle d'expérience esthétique que l'art c'est aussi quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut avoir une expérience esthétique non pas à regarder mais à pratiquer. C'est ce que savent tous les gens qui sont dans une chorale, tous les gens qui font de la danse, tous les gens qui font de la peinture le dimanche, tous les gens qui font des pratiques de musique alternative, tous les gens qui jouent d'un instrument. L'expérience esthétique comporte une dimension de purement pratique, et disons que là, à ce moment-là, l'important n'est pas ce qui va être perçu par les spectateurs, mais l'important c'est ce qu'on fait pendant qu'on le fait. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes très intéressés par les spectacles de danse et de chorégraphie contemporaine, mais il ne faut pas oublier que la danse, au départ, c'est surtout une activité par ceux qui dansent, c'est pas une activité pour ceux qui la regardent, c'est une activité de poétique, on fait la danse et on a une expérience. expérience de l'art, dont on peut dire que c'est une expérience esthétique, mais certainement pas une expérience de spectateur. C'est l'expérience du danseur, de celui qui danse, c'est l'expérience du musicien, de celui qui joue, c'est l'expérience du peintre, de celui qui peint. Et donc, ne pas oublier que c'est aussi un aspect du discours sur l'art qui est très important, et probablement plus important du point de vue de l'histoire de l'humanité que le discours de la réception esthétique. Alors, la notion d'expérience esthétique, elle est apparue, elle a une date de naissance, et peut-être qu'elle disparaîtra un jour d'ailleurs. L'expérience esthétique est apparue à l'âge de l'art et à l'âge de l'esthétique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'art a été confondu avec d'autres activités, les activités religieuses par exemple, et pendant très longtemps, encore une fois, on n'a pas eu sur l'art un point de vue esthétique, mais un point de vue politique. Eh bien, l'expérience esthétique apparaît à l'âge de l'art et de l'esthétique. Et il faut pour cela qu'il y ait un changement dans les perceptions, un changement aussi dans le fonctionnement social. C'est-à-dire qu'il faut qu'on identifie un domaine d'expérience propre qui n'est ni cognitif, ni sensoriel, mais esthétique, particulière. Et alors de ce côté-là, il y a un passage, un moment très intéressant que on n'étudie pas en général. À la fin du 10, dans les années 1670-1680, quand on commence très vaguement, chez des penseurs qu'on étudie en général pas du tout pour ça, comme Leibniz, ou John Locke, quand on commence à se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce domaine bizarre qui n'est pas cognitif, qui n'est pas sensoriel complètement, mais qui est quelque chose de entre les deux. On n'a pas des idées claires et distinctes, mais néanmoins on a des idées. Et qu'est-ce que c'est que cette réalité de l'expérience qui n'est ni une simple sensation, ni une connaissance, mais qui est esthétique. Le mot esthétique a été inventé dans les années 1735, mais dès les années 1670-1680, notamment chez Leibniz et puis chez un écrivain, un critique de littérature qui s'appelle le père Bourse, il y a une réflexion sur c'est quoi cette expérience bizarre qui n'est ni une pure sensation, ni une expérience des idées, mais qui correspond à l'expérience par exemple, de la beauté de la nature ou à l'expérience de la beauté d'un poème ou d'une tragédie. Et alors le père Bourse a inventé une expression qui a énormément de succès à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Il dit « c'est un je ne sais quoi ». Alors là, vous tenez tous les livres de fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, vous voyez, on qualifie un certain type d'expérience comme expérience d'un je ne sais quoi. Et c'est ce qui permet de nommer pour la première fois le domaine esthétique. Le livre du père Bourse, en général, on ne le relit pas, moi je l'ai lu il y a quelques années, il commence très curieusement par une promenade au bord de la mer. C'est très étonnant pour les années 1670, parce que c'est une époque où les gens n'ont pas du tout de soucis du paysage. Il commence par une promenade au bord de la mer, et les deux personnages du dialogue du père Bourse, entretiens d'Ariste et d'Eugène, je crois, sont étonnés par des coquillages. Et ils se demandent qu'est-ce que c'est que l'expérience de la beauté de la mer, avec la marée, c'est dans le nord de la France, et qu'est-ce que c'est que l'expérience de la beauté d'un coquillage. Et ils disent, c'est un je ne sais quoi. Et c'est là où on voit naître la notion d'esthétique. Alors elle va être ensuite théorisée, et c'est un Allemand bien sûr qui va inventer le terme, un précurseur de Kant, Baumgartel, qui va dire ce que j'appelle esthétique, c'est ni une simple sensation, ni quelque chose de cognitif, ni quelque chose de noétique. C'est ça relève d'un entendement, mais d'un entendement esthétique pour sentir une certaine expérience qui est essentiellement l'expérience de l'art. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on entre dans l'âge de l'esthétique, qu'il y a de la théorie esthétique, qu'on peut commencer à parler de philosophie esthétique. En gros, je dis ça va des années 1710 à peu près, 1720, jusqu'à nos jours, on est entré dans l'âge de l'esthétique. Alors, il faut bien voir que ces changements d'idées correspondent aussi à des changements sociaux, qui sont des changements sociaux extrêmement intéressants. C'est-à-dire que c'est l'âge où on voit arriver le concert, l'opéra se développe, où les collections commencent à exister. C'est d'abord des collections particulières, mais on fait visiter ça aux amis. C'est le début du musée. C'est le début aussi du voyage cultivé, qui va donner naissance au tourisme, le grand tour en Italie. Au départ, le tourisme, c'est le grand tour en Europe, sur le continent, que font les jeunes, les enfants de la noblesse anglaise pour venir se cultiver et apprendre la culture. C'est le début aussi de la critique d'art. Donc, c'est l'âge du spectateur. Quand on parle d'expérience esthétique, c'est qu'on entre dans l'âge du spectateur. Et encore une fois, il faut qu'il y ait des sous-bassements à ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sociétés musicales, qu'il faut qu'il y ait des sociétés d'opéra, qu'il faut qu'il y ait des salles de concert, qu'il y ait tout un sous-bassement, matériel, économique, au fonctionnement artistique. Lorsqu'un immense musicien comme Handel va s'installer à Londres, il va s'installer à Londres, tout simplement parce que la riche bourgeoisie et noblesse anglaise du XVIIIe siècle a les moyens d'attirer un grand créateur d'opéra, a les moyens de financer des opéras, de financer la production des opéras, ça coûtait de l'argent, la mise en scène, la réalisation, et c'est l'âge du spectateur, l'âge de la critique d'art, l'âge du concert, l'âge du musée qui va bientôt arriver. Et donc, expérience esthétique, ça veut dire qu'on va s'intéresser à l'art du point de vue de sa réception dans la sensibilité. On va beaucoup moins s'intéresser à la poétique, on va plus s'intéresser tellement à la cuisine, aux recettes, on va s'intéresser à ce que ça nous fait, à nous, quand nous faisons l'expérience de l'art. Alors, je dirais que du point de vue, ce qu'on appelle phénoménologie, je n'ai pas trop ce terme, c'est un peu prétentieux, mais du point de vue de nos expériences quotidiennes, l'expérience esthétique, nous la connaissons assez bien. Je suis sûr que même s'il y en avait un parmi vous qui disait qu'il n'en a jamais, qu'il ne s'intéresse qu'au fait, au fait et au fait, je suis sûr que même lui ou elle aurait des expériences esthétiques. L'expérience esthétique, on la connaît assez bien, on la reconnaît certains traits. Alors, j'en ai énuméré quelques-uns. Une perte de contact avec la réalité immédiate. C'est le moment où vous cessez d'être dans le courant des choses que vous faites et brusquement vous pensez à autre chose, brusquement vous décrochez. Moi ce matin, en prenant le tram à Bordeaux, il y a eu une annonce faite par haut-parleur et une dame à côté de moi me dit qu'est-ce qu'ils ont dit à l'annonce. Et je lui dis je sais pas. J'écoutais pas parce que j'étais en train d'écouter la musique, c'était une musique noire. Que passait un automobiliste noir à côté d'une très belle musique africaine. Ça m'avait fait quitter, cette musique m'avait fait quitter la réalité dans laquelle j'étais, c'est-à-dire d'attendre le tramway et puis de le prendre et de partir à la gare. Ça m'a pas empêché de prendre le tramway, mais j'avais décroché, perdu ce contact. J'étais dans une autre forme d'attention, et c'était cette musique qui m'avait attiré l'oreille. Bon, transport dans un autre monde ayant sa propre réalité, je prends cet exemple qui est un peu plus banal, parce que l'expérience esthétique est souvent quelque chose de très banal, ben, j'étais dans un autre monde, hein, je me disais, tiens, c'est drôle, ce type, il est à Bordeaux, il est dans une voiture, il va à son boulot, je ne sais pas ce qu'il fait, mais lui, il est en Afrique. Hein, et il est dans un autre monde, et une Afrique qui est une Afrique complètement fantasmatique, non, parce que quand vous êtes dans Bordeaux, vous n'êtes pas en Afrique. Donc, transport dans un autre monde ayant sa propre réalité, perte des repères utilitaires, gratuité, désintéressement, c'est-à-dire que ça n'a pas de fonctionnalité immédiate dans la vie où vous êtes, un plaisir, y compris, j'ajoute, ça c'est une chose très importante, y compris quand c'est désagréable, perturbant ou étrange. Parce que c'est vrai que dans l'expérience de l'art ou des choses belles, vous avez des moments qui, du point de vue de la sensation, du point de vue moral, du point de vue de la règle sociale, sont pas forcément intéressants, ou sont perturbants, sont étranges, ou sont carrément désagréables. Un bon exemple, je dirais, du désagréable, on en entendra peut-être tout à l'heure dans l'émission, c'est en musique. En musique, il arrive très souvent que vous ayez des sons qui sont des sons dissonants, ou que ce soit désagréable, ou qu'il y ait des silences et brusquement des accélérations et des fortissimos. C'est pas forcément agréable à l'oreille, mais quelquefois des moments qui sont ennuyeux. Je vous serez du clavier de Philippe Glass, la musique répétitive, c'est fondamentalement ennuyeux, et en même temps, eh ben, c'est, ça donne du plaisir. Donc plaisir, y compris quand c'est désagréable, étrange ou perturbant. Et puis, effectivement, ça nous donne une certaine communication, où on croit que ça nous donne une communication avec autrui. Hein, quand vous êtes tous ensemble à un concert, quand vous êtes dans un musée, vous êtes sur un certain registre de sensibilité que vous partagez avec d'autres. Et je dirais encore une fois, vous n'avez pas du tout besoin que ce soit une expérience esthétique de très haut niveau. Hier, j'avais un petit moment à Bordeaux, je suis allé à la Galerie des Beaux-Arts pour voir une exposition d'un peintre réaliste assez académique du 19e siècle qui s'appelle Roll et Ron Wezel. Ce n'était pas de la très grande peinture, loin de là, mais disons, tous les gens qui étaient là étaient en gros dans un état de sensibilité comparable. C'est-à-dire que la contemplation de ces œuvres, avec leur côté un peu anecdotique, leur bizarrerie d'époque, leur anachronisme aussi, ça nous mettait en gros dans un état de sensibilité proche, et donc ça facilitait l'accord. Il n'y avait pas des dissonances dans les comportements des gens. Les gens étaient tous plus ou moins à la fois attentifs et détendus, pas agressifs. Ouais, c'est ce que j'appelle la communication réelle ou supposée avec autrui dans l'expérience esthétique. Alors, il y a quelqu'un qui a très très bien parlé de l'expérience esthétique en ce sens-là, mais il n'est pas le seul, parce que quand vous regardez les textes des gens du 19e siècle, il y en a énormément. Il y en a dans Stendhal, par exemple, avec le fameux syndrome de Stendhal, c'est-à-dire cette espèce d'état de perturbation mentale dans lequel on met la contemplation d'un excès de beauté. Mais Schopenhauer a très bien parlé de ça, dans le monde comme volonté et comme représentation. Ah tiens, mon texte a disparu. C'est très curieux. Est-ce que vous l'avez ?
Non.
Non, il a disparu de manière positive. J'ai fait une fausse manœuvre en enregistrant, je suis vrai. Donc j'ai pas de texte à vous dire, mais en gros c'est un texte disant que dans l'attitude esthétique, nous perdons la relation à l'objet. Nous nous retrouvons, on retrouve un peu le texte de Plotin, nous nous retrouvons dans une immersion directe avec l'objet. La thèse de l'esthétique Schopenhauer, c'est que nous voyons le monde comme représentation, et quand nous voyons comme représentation, nous y voyons des objets qui sont déterminés par le principe de causalité. Le principe de causalité, c'est un principe aussi d'utilité et d'instrumentalité. Nous savons que telle chose va produire tel effet et que ça a tel avantage. Quand le monde est comme volonté, c'est-à-dire que c'est nos actes qui constituent le monde, c'est la substance morale du monde, mais quand le monde est vu strictement comme volonté, mais en nous abandonnant nous-mêmes comme sujet, à ce moment-là, nous accédons à l'art, à l'expérience esthétique, et nous nous retrouvons, je dirais, dans une sorte d'immersion, dans une réalité dont nous ne nous séparons plus, sans souci, sans inquiétude. Schopenhauer avait tendance à relier ça avec une expérience de la mort, hein, une expérience du bonheur dans l'abandon de la relation intéressée à la vie. Mais je suis désolé d'avoir perdu cette diapositive, mais ce sont des choses qui arrivent quand on fait des fausses manœuvres. Voilà. Schopenhauer n'en avait pas. Alors, ce que je voulais vous parler là, c'est. Non, j'ai pas le bon. Excusez-moi, je vais changer.
Vous avez. On n'a plus la même. Ici.
Non. Je suis désolé, là, parce que je vais devoir commenter, là, parce que, effectivement, on n'a pas ouvert la bonne version du PowerPoint. Donc, c'est pas grave. Simplement, ce qu'il faut que je vois, c'est. J'ai avancé un petit peu, donc c'est pas du tout. C'est pas grave, je vais le faire dessus. Je sauterai certaines diapositives, hein, ça sera pas grave. Lorsqu'on ne considère plus ni le lieu, ni le temps, ni le pourquoi, ni l'à quoi bon des choses, mais purement et simplement leur nature, lorsqu'on ne sait donc ni le lieu, ni le temps, ni le pourquoi, ni la comment des choses. Ça, c'est l'abandon du monde du point de vue de la représentation. Mais purement et simplement leur nature. Lorsqu'on s'y plonge tout entier et que l'on remplit toute sa conscience de la contemplation paisible d'un objet naturel actuellement présent, du moment qu'on s'y abîme, rappelez-vous, c'est-à-dire Plotin, ça fait être enivré, du moment qu'on s'y perd, alors ce qui est ainsi connu, ce n'est plus la chose particulière en tant que particulière, c'est l'idée, c'est la forme éternelle, l'objectivité immédiate de la volonté. C'est ça l'écran de là. Ce qui est intéressant, c'est, disons, la description. Quand on s'y plonge tout entier, qu'on remplit sa conscience de la contemplation paisible d'un objet naturel, qu'on s'y perd, voilà, ça c'est une bonne description phénoménologique, si vous voulez, de l'expérience esthétique. Vous êtes à un concert et justement, vous n'avez plus le sens du temps. Vous lisez de la littérature et justement, vous n'avez, vous voyez plus passer le temps, vous êtes dans un autre monde et vous ne faites plus la différence entre vous et ce monde-là. Alors, diversité de l'expérience esthétique, eh bien, ce que je veux insister maintenant, c'est que les composantes sont multiples. C'est facile de dire j'ai des expériences esthétiques, tout le monde en a, mais maintenant, de quoi elles sont faites? Quand on commence à les analyser, on s'aperçoit qu'elles sont multiples, d'abord, on a des expériences esthétiques très différentes selon les objets qu'on va considérer, et qu'elles sont aussi des expériences très mélangées. Parfois des dimensions qui sont émiettées à travers des expériences diverses. Alors, j'en ai répertorié certaines, mais je pense qu'on pourrait me chicaner sur ces distinctions. Il y a des composantes d'une dimension morale de réflexion, une dimension érotique, certainement, sensuelle érotique, une dimension cognitive, une dimension de choc, et éventuellement quelquefois de dégoût. Et puis une dimension d'attention aux choses, qui peut-être quelquefois d'ailleurs aussi une attention à soi à travers l'attention aux choses. Quand vous êtes concentré sur un objet beau, quelquefois c'est aussi sur votre expérience que vous vous concentrez, et donc sur votre propre concentration. Alors je vous donne quelques illustrations, je reste dans les arts visuels maintenant, mais après on passera à d'autres exemples. De dimension morale, par exemple, une nature morte. La plupart des natures mortes, c'est l'attention aux choses. C'est sûr que la fragilité des choses, leur existence fragile et leur mystère, ça c'est une dimension d'expérience esthétique, mais très souvent c'est une dimension morale. Beaucoup de natures mortes ont à l'arrière-plan des allusions sur la brièveté de la vie, ou sur l'abondance des plaisirs, ou sur les risques du désir. Là, c'est une nature morte hollandaise, je ne me souviens plus dans quel musée j'ai dû la photographier, mais quand il y a des huîtres, par exemple, des coquillages, à la fois de l'abondance, mais il y a aussi des références érotiques très évidentes, toujours sur le désir, sur les aphrodisiaques, sur la brièveté de la vie aussi. Vous avez cette dimension morale. Notre dimension morale, vous avez plein de peintures, il suffit d'aller dans n'importe quel même petit musée, vous trouverez des peintures sur des peintures, je dirais, pour faire des leçons morales. Ça, c'est une peinture de Greuze, c'est le père qui est père de famille, qui est mourant avec au soir d'une vie de travail, avec la piété filiale et l'entourage par la famille. Je vais vite, là, c'est la dimension morale. La dimension érotique, alors je crois que je ne dis pas du tout ça parce que vous êtes tout à l'âge érotique, la dimension érotique, elle est absolument importante elle est présente dans la danse, bien évidemment, elle est présente dans les représentations, elle est présente dans la sensualité musicale, et très souvent, quand on sacralise les œuvres d'art, on ne veut pas voir qu'elles ont une dimension érotique. Ça, c'est un petit tableau, un festin des dieux. Que j'ai photographié au musée de Rennes. C'est un tableau qui n'a aucun intérêt particulier. C'est un tableau du XVIe siècle, de la Renaissance italienne. C'est un festin des dieux. Alors, comme c'est de la mythologie, c'est très bien, c'est un festin des dieux. Mais en même temps, les gens qui regardaient ça, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de nus dans la peinture, c'était pour moi un plaisir érotique, un plaisir de voyeur. Et ce festin des dieux a quelque chose d'une sorte de partouze. Je donne un exemple, à comparer avec. J'ai pris une partouze dans un site pornographique internet, que vous voyez à droite, C'est pareil, hein, je veux dire, c'est simplement, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes intérêts. Qui essayait d'expliquer un certain nombre de tableaux à des jeunes gens et jeunes filles de 13-14 ans. Et elle était devant un tableau de Gervais qui se représentant Rolla, c'est le poète Rolla qui va se suicider à cause de ses dettes. Mais sur le lit, il y a une belle salle magnifique, il y a une prostituée qui lui a consacré sa dernière nuit. Et la jeune femme était totalement désemparée pour expliquer la réalité de ce tableau. Alors que la dimension érotique du tableau est évidente, et d'ailleurs qu'à l'époque ce tableau a fait absolument scandale, que les gens ne voulaient pas au salon, alors que c'était un peintre un peu plus académique. Effet cognitif, il en a changé de registre, c'est pas, j'ai pas beaucoup, mais c'est un tableau d'un peintre réaliste socialiste français, Boris Tatsinski, qui était un peintre du parti communiste. Bon, il a été déporté par le parti. Boris Tatsinski a été déporté et effectivement il a été à Buchenwald et son tableau c'est une représentation de Buchenwald du. Là je crois que j'ai un problème, c'est si non, pas d'alimentation, je sais. Je me demande si j'ai pas un problème d'alimentation. Non, non, ça a marché. Pardon, je reviens à mon. Ça, c'est ce qu'il appelle l'effet cognitif, parce que bien sûr qu'il y a une dimension morale dans ce tableau, c'est pour dénoncer notre concentration, mais c'est aussi pour nous montrer à quoi ça ressemblait, comment c'était le commando d'élimination de la chambre à gaz à Buchenwald. C'est ce qu'il appelle l'effet cognitif, c'est-à-dire c'est nous faire connaître, nous montrer quelque chose. Effet cognitif, c'est-à-dire conceptuel, je change complètement de registre, ça c'est la fameuse, j'ai entendu parler, la fameuse fontaine de Marcel Duchamp. Bon, l'intérêt artistique de cette fontaine, du point de vue plastique, est égal à peu près à zéro. Hein, dire, j'ai beau regarder tous les urinoirs de la création, c'est leur fonctionnalité plus ou moins qui est intéressante. Mais du point de vue, je dis que c'est une dimension cognitive et conceptuelle, parce que comme c'est une étape fondamentale dans le développement de l'histoire de l'art contemporain, quand on regarde l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est pas pour sa qualité érotique, c'est pas pour sa qualité. Morale, c'est pas pour sa qualité plastique, c'est par rapport à la place que ça tient dans l'histoire de l'art, et donc c'est ce que j'appelle la dimension politique conceptuelle. Autre exemple rigolard de dimension politique conceptuelle, ça c'est une installation par l'artiste français Omer Filiou, qui faisait des blagues très souvent. C'est un ready-made, donc ça fait allusion à Marcel Duchamp, vous prenez un balai. Un seau, une serpillière, et au lieu que ce soit la concierge qui est dans l'escalier, c'est la Joconde qui est dans l'escalier, ce que j'appelle une dimension cognitive conceptuelle, avec une dimension ironique. Il y a beaucoup d'art qui est fait pour rire, hein, aussi, il faut voir, c'est pas toujours sérieux du tout, et que beaucoup de choses sont faites pour faire pour réfléchir, sourire, éclater de rire, etc. Alors, dimension du choc, ça c'est tiré d'une performance d'un artiste américain. Rassurez-vous, c'est des spaghettis, c'est des patins, c'est des pâtes de ketchup, rassurez-vous, c'est une action du artiste américain Paul McCarthy, dimension du choc, ben, ça a marché, hein, réaction, ça a marché. Dimension du choc aussi, ça c'est Cindy Sherman, qui photographie, elle, mais déguisée, en morte, en montre, etc. Des fins de repas pourris, etc. Dimension du choc. Il y a très souvent dans l'art tout court, il y a cette dimension de choc. Et entre parenthèses, ça paraît évident quand on regarde l'art contemporain, parce qu'on se dit l'art contemporain veut nous choquer. Et moi, très souvent, quand je regarde toutes sortes d'art, y compris l'art le plus classique, très souvent, quand je vois les tableaux des martyrs, je suis effaré. Parce qu'on voit dans les tableaux de martyrs, dans les grands tableaux de martyrs, quand vous voyez Saint Laurent sur son grille, ou je ne sais pas quel être saint dont on éventre et dont on enroule les intestins autour du cou, je vous dis, mais absolument épouvantable. Alors, comme c'est des tableaux, comme c'est dans les musées, comme c'est. On se dit, bon, ben, c'est de l'art et on ne fait pas attention au sujet, mais la dimension de choc, elle a toujours existé dans l'art et pas seulement dans l'art contemporain. Dimension de choc aussi, ça, c'est des photographies à gauche. Nan Goldin, qui a fait des recueils de photographies sur le milieu dans lequel déjeté, drogué, transsexuel, dans lequel elle vivait dans les années 80, dans un recueil qui est pathétique et magnifique, qui s'appelle La malade de la dépendance sexuelle. Et à droite, c'est une photographie de dentiste anglais qui est Richard Billingham, qui fait le portrait de ses parents. Comme on dit, il ses parents, c'est le Lumpen prolétariat, sa mère est obèse et alcoolique, son père est. Un handicapé du travail, et c'est aussi la dimension de choc de l'art. Et puis, dimension de l'attention aux choses, il y aura d'autres exemples. Là, c'est une micro-sculpture faite avec quasiment de l'air et du gel. C'est rien, c'est quasiment infra-rien, quoi. Je veux dire, mais en même temps, ça demande de faire attention à quelque chose d'effroyablement fragile, d'effroyablement inexistant, à peine visible. C'est ce que j'appelle une dimension d'attention au fait. Alors, je passerai les exemples musicaux tout à l'heure, rapidement, mais je vous donnerai des exemples à peu près du même genre avec de la musique, que je vais continuer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour l'art contemporain? Et je parle seulement des arts visuels, hein, je parle aussi de la musique, je parle aussi de l'architecture. Je parle du design, je parle de l'environnement. Hein. Je crois que les changements contemporains, c'est ce que j'appelle la vaporisation de l'expérience esthétique. Vaporisation, c'est simple, hein, c'est transformer en vapeur. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'art à l'état gazeux. Mais je crois que, en fait, les expériences esthétiques, elles étaient déjà extrêmement diffuses avant qu'elles étaient rapportées à des objets. Aujourd'hui, elles sont rapportées, elles se diffusent dans l'environnement. Alors, elle se diffuse dans l'environnement sous forme d'installations interactives, déplaçables, remontables, sous forme d'installations avec des fortes dimensions technologiques. Mais, encore une fois, ça ne concerne pas que le musée. Hein. Vous savez qu'il y a des DJ en musique, mais maintenant, il y a des VJ, des gens qui font DJ et vidéo. Il y a des festivals de musique électronique, des festivals de musique électroacoustique et techno, dans lesquels une grande partie du programme est constituée par une synthèse d'envoi de vidéo, d'environnement vidéo et de construction, de production de musique techno, les DJ et les DJ. Donc des installations technologiques, beaucoup de liens avec la musique. Aujourd'hui, une des choses qui me frappe le plus, c'est la convergence de beaucoup des arts plastiques du côté des arts du son, et du côté, y compris dans le design, parce que le design, c'est un environnement d'objets, mais aujourd'hui, une branche du design qui se développe considérablement, elle est très sophistiquée encore, et elle est très chère, mais elle se développe de manière fantastique, c'est le design sonore, c'est-à-dire la production d'un environnement sonore pour les gares, pour les espaces publics, même pour des espaces privés. Hein, le design sonore, la création d'environnement, et puis bien sûr, ce lien de l'expérience esthétique vaporisée avec les phénomènes tribogènes. Lundi, j'ai interviewé au Palais de Tokyo à Paris, dans l'exposition de Loris Dreau, il y a 4000 m² d'installation, 4000 m², c'est immense, cette installation. C'était plus vaporeux et gazeux que je l'aurais imaginé, puisque l'équipe de télévision de Canal Plus qui m'interviewait ne savait pas quoi filmer, parce qu'il n'y avait pas d'objet, si vous voulez. C'était juste une expérience globale du parcours, du processus et de l'ensemble de l'espace qui était l'exposition, mais il n'y avait rien de particulier à photographier. Il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas d'objet, il y avait des choses partout. Mais d'une certaine manière, quand vous en voyez une, vous n'aviez à la fois tout vu et rien vu. Et donc, pour celui qui veut faire un document photographique là-dessus, c'est une situation impossible, parce qu'effectivement, on ne photographie pas une atmosphère, on ne photographie pas une vapeur. Et vous avez, ce qui compte, c'est l'ensemble de l'expérience, côté diffus. Quelquefois, j'appelle ça l'expérience ambientale, c'est-à-dire que c'est une affaire d'ambiance. Et je trouve que ça regroupe très bien aujourd'hui les préoccupations pour tout ce qui est environnement, ce qui nous entoure, l'esthétique, elle est passée dans l'environnement. Je ne vais pas dire dans l'environnement au sens écologique encore, mais dans l'environnement, c'est-à-dire notre perception est de plus en plus une perception sur ce qui nous entoure. Ça, c'est une installation d'Alain Séchard, il y en a une au FRAC de Bordeaux qui est exposée, d'ailleurs, c'est des fleurs carnivores d'Alain Séchard. Ça, c'est une installation, pour ceux qui savent bien l'anglais, est très pornographique, puisque c'est le théâtre qui est dans mon pénis, si vous voulez. Hein? Tout ce qu'il y a dans ma queue, hein? Le theater magique. C'est une installation qui fait à peu près 12 mètres de long, et c'est un bordel de choses hallucinantes. Il y a vraiment la vie sexuelle de Jason Rose. Il est mort il y a 2 ans, devait être extrêmement riche du point de vue des fantasmes, parce que le théâtre, le bazar qu'il y avait dans ce théâtre, était, je l'ai vu, l'exposition de mes yeux vus, elle était vraiment superbe, elle était totalement perturbante. J'ai rarement vu un bazar pareil. C'était aussi de faire un vrai bazar. Il y a les enfants qui arrivent un peu dans leur chambre, hein, si vous avez des petits frères et des petites sœurs, quelquefois vous rentrez le soir, vous voyez des bazars dans les chambres d'enfants. Que vraiment personne n'arriverait à faire consciemment. Et là, c'est un peu pareil, mais c'est un peu consciemment. Bon, ça, c'est l'installation vidéo. Installation, alors là, vous voyez, quand je parle d'art ambiental, environnemental, ça, c'est une installation que j'ai vue de Anna Veronica Janssens, une nordique. C'est juste une atmosphère lumineuse qui est créée. C'est une atmosphère lumineuse dans laquelle vous êtes. Alors quelquefois l'atmosphère peut être purement visuelle, comme c'est le cas. Il y a une artiste mexicaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Teresa Margolies, qui fait des installations lumineuses comme ça, avec des vapeurs comme ça, sauf qu'elle y rajoute une dimension existentielle très forte et morbide, puisque la vapeur c'est la vaporisation d'eau pour laver les morts de la morgue de Mexico où elle travaille en général, hein, pour gagner sa vie. Parce qu'encore une fois, ce sont des artistes qui n'ont pas vraiment d'objets à vendre. Hein. Quand vous avez une installation comme ça, vous n'allez pas vendre un particulier, à la limite un musée ou une collection très très riche, vous n'allez pas vendre une expérience. Hein. À noter une chose pour ceux qui s'intéressent au business, c'est qu'il y a une branche aujourd'hui extrêmement pointue et qui a beaucoup de succès du marketing, qui s'appelle le marketing d'expérience. Et je pense que ça correspond à ce que je suis en train de vous décrire. C'est ce qu'on appelle le marketing d'expérience, c'est qu'on vous vend non pas un objet, mais on vous vend l'expérience que donne cet objet. Et c'est notamment le cas avec l'industrie du luxe. Parce que l'industrie du luxe, quand vous avez votre petit tube de rouge à lèvres, vous n'avez que dalle. Hein, c'est moi l'expression. Mais vous avez toute l'aura et toute l'expérience d'un objet de luxe. Et d'ailleurs, j'ai appris très récemment que ça se doublait d'un travail sur le design sonore. C'est-à-dire que les firmes de luxe, par exemple, travaillent énormément le bruit du tube de rouge à lèvres qu'on ouvre et qu'on ferme. Le bruit est travaillé. Ça fait partie de l'expérience qu'on vous vend quand vous achetez cet objet qui est un tube de rouge à lèvres, je ne sais pas, Saint-Laurent ou je ne sais qui. Vous achetez une expérience et vous achetez aussi une ambiance sonore. L'ambiance sonore, le travail du design sonore est aussi particulièrement soigné sur les portières de voiture. Les marques se différencient par le travail du design sonore qu'elles ont sur le bruit de fermeture des portières. Je vous signale ça. Et c'est une branche particulièrement dynamique aujourd'hui du marketing, qui s'appelle le marketing d'expérience. Et je crois que ça correspond en partie à ce que je suis en train de décrire pour les arts en général. Quand vous visitez un très beau centre architectural, je ne parle pas d'un palais du XVIIe siècle ou d'une église baroque, mais quand vous baladez à l'Euralie, par exemple, je ne sais pas quel serait l'équivalent à Bordeaux, mais que vous êtes dans un lieu d'architecture à la fois fonctionnelle, commerciale, créé par un grand architecte, vous n'avez, c'est comme l'expérience que je décrivais au Palais de Tokyo, vous n'avez rien à photographier. Hein, ou alors vous photographiez tout ça d'avion. Mais votre déambulation dans l'espace de l'architecture, c'est un ensemble d'expériences que vous ne pouvez pas définir. C'est une ambiance. qui est créée. Cette ambiance, elle est aussi, comme je vous l'ai dit, travaillée du point de vue lumineux, elle est travaillée du point de vue sonore. C'est ça, c'est ce que j'appelle cette expérience esthétique diffuse. Bon, là, je vous montre que ça va sur l'eau. Et puis, il y a toute une, je dirais, à partir du moment où il y a cette vaporisation, il y a les choses débordent et vous avez l'esthétisation de la vie. Alors, esthétisation de la vie à travers la publicité, à travers l'amour, tout ce qui est l'amoureux, la mode, le design, design urbain, design immobilier, design environnemental, même le design de la nature, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un parc naturel, il y a, et qu'on essaie de faire de la restauration, par exemple, écologique, eh bien, il y a un design, l'esthétique corporelle, la cuisine, le bodybuilding, body management, le luxe, la chirurgie esthétique, et j'ajouterai à tout ça la dictature des beaux sentiments. Alors je passe très rapidement sur les illustrations, parce que je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Ça, c'est des mélanges d'œuvres d'art et d'affichage. En bas, c'est une affiche de Barbara Kruger, une artiste américaine engagée. Vous êtes une féministe, votre corps est un champ de bataille. Et puis, en même temps, quand c'est collé dans l'environnement urbain, eh bien, ça se dissout dans l'environnement urbain, puisque vous trouvez des publicités de cinéma en même temps. Ça, c'est une exposition d'art. Politiquement engagé, il y a Martin Luther King, c'est la fin de la ségrégation aux États-Unis, l'égalité, et en même temps, le type d'aménagement est très très proche de ce que vous pouvez trouver dans les boutiques Prada, dans les boutiques Armani, dans les boutiques de luxe de mode aujourd'hui, qui ont tous des aménagements sonores, vidéo, visuels de ce type, y compris d'ailleurs politiquement engagé, quand vous voyez les publicités Benetton. Ça, c'est un espace construit par Herzog et Demeron pour la boutique Prada de Tokyo. Et ça, on se demande ce que c'est. C'est un lieu de vente à Paris, une boutique très à la mode, branchée chez Colette. Vous avez des installations artistiques qui. Et même l'accrochage des vêtements fait l'objet d'une stratégie artistique, esthétique d'accrochage. Et j'ai appris récemment que dans les boutiques Armani, l'accrochage des vêtements est changé chaque jour. Je ne sais pas si vous imaginez que c'est exactement aussi un lieu d'art. C'est-à-dire qu'on change les choses qui sont accrochées à l'intérieur de la boutique, dans les rayons de mode. En fait, quelque chose qui soit bon esthétiquement. C'est dans ce sens où l'expérience esthétique, elle se diffuse. Là, j'ai une image, c'est aussi d'un artiste japonais. On croirait que c'est lui qui a fait la décoration de la boutique de chez Colette. Alors, ça, c'est un exemple de chambre de publicité, mais ça, j'y passe rapidement. Alors, sur la beauté diffuse, l'esthétisation de la vie, je m'étais juste amusé à photographier le L du 50e anniversaire, sur les codes du glamour, la beauté corporelle, le design d'objets, je ne sais pas ce que c'est, peut être des temples motoculteurs et des vendeurs de je ne sais pas quoi, le tracteur design, la campagne n'a jamais été aussi déco. Vous voyez quand il y a le sens ironique que ça peut donner, vous montez un fauteuil Louis XVI sur un tracteur. La cuisine, qui aujourd'hui fondamentalement devient design partout. C'est très difficile maintenant d'échapper, pas encore partout, parce que heureusement, mais c'est très difficile d'échapper à la cuisine décorative. C'est-à-dire où on vous entoure ce qu'il y a dans votre assiette de giclées de couleurs. Et il paraît même que dans certains restaurants, on recrute les apprentis cuisiniers, non pas sur la capacité à faire une omelette, comme on le faisait dans le temps, mais sur la capacité à jeter la sauce. C'est-à-dire à faire des sortes de dripping polochien avec du chocolat au moment de manger votre glace à la fin. Vous avez des boules de chocolat qui sont. Entouré d'un dripping à la Pollock. Alors, l'expérience, et je termine là-dessus, l'expérience esthétique contemporaine, je dirais que c'est l'expérience d'un enveloppement, de plus en plus. Elle est diffuse, c'est très difficile de la saisir, de la percevoir, de la photographier. À la limite, vous pouvez en faire des vidéos, si vous arrivez à capter le son en même temps, mais même la vidéo ne vous donne pas une perception à 360 Elle fait beaucoup appel à la fois, curieusement, au choc et à la répétition, c'est-à-dire qu'il y a du choc pour que l'attention se réveille, mais en même temps, une répétition continuelle, à la fois pour des raisons de stratégie commerciale, pour que les gens, le message leur rentre dans la tête, que l'air ils le retiennent, etc. Mais en même temps, parce que la répétition est venue, et a toujours été aussi une dimension esthétique intéressante, les choses répétitives auxquelles on est habitué, qui reviennent, nous donnent un certain plaisir. Elle est perçue, ça c'est fondamental, et c'est ça qui change complètement par rapport au passé. C'est-à-dire que l'expérience esthétique, elle est perçue de manière inattentive et distraite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, on va voir, là, vous ne pouvez pas percevoir toute une suite de Philip Glass qui dure 80 minutes de musique répétitive. Forcément, vous n'allez pas écouter tout ça. Vous n'allez pas écouter ça comme vous écouteriez très attentivement une fugue de l'art de la fugue. Donc, votre perception est inattentive et distraite. La fonction hédoniste est centrale. L'expérience esthétique aujourd'hui est faite pour faire plaisir. La fonction décorative est centrale aussi. Alors, ce qui joue un rôle fondamental, et je le dis d'autant plus que ça joue un rôle encore plus fondamental par la suite, c'est que cette expérience esthétique, elle est totalement dépendante aujourd'hui des médias technologiques qui connaissent eux-mêmes des changements considérables. Pensez à ce que c'était qu'un concert de musique au XVIIIe siècle. Il fallait avoir des musiciens, il fallait avoir un compositeur. En général, d'ailleurs, vous aviez un compositeur, mais vous n'aviez pas de partition. Pourquoi ? Parce que la question des droits d'auteur existait aussi à l'époque. Très souvent, comme il n'y avait pas de législation sur les droits d'auteur, les musiciens ne tenaient pas à laisser les partitions de leurs œuvres. Et donc, ils voulaient garder la propriété intellectuelle en étant les seuls à pouvoir les faire jouer. Et donc, il fallait un certain type de conditions de production de l'expérience esthétique. Aujourd'hui, pensez à ce que c'est qu'un fichier numérique que vous téléchargez et qui ensuite peut se mettre à se balader n'importe quoi, n'importe comment. Pensez au succès aussi du baladeur de la commande Chaplin, hein, l'expérience faite au hasard. Si ça ne veut pas dire quelque chose, le fait que l'expérience esthétique est faite de manière inattentive et distraite, le Chaplin me semble tout à fait exemplaire à ce côté-là. Elle est foncièrement reproductive et répétable, alors qu'avant, elle était considérée comme unique, absolument unique, liée à des œuvres uniques qui ne pouvaient pas être répétées. Et je dirais qu'elle est à base de production industrielle, vraiment de production industrielle. La production industrielle des biens culturels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'œuvres artisanales. Je dirais que ce qui caractérise le changement contemporain, c'est aussi un changement de l'artiste. Il n'y a plus d'artisanat d'un côté, et il n'y a plus de romantisme non plus de l'autre. C'est-à-dire que c'est la fin, je dirais, de l'artiste de la Renaissance, mais c'est aussi la fin de l'artiste romantique entre Van Gogh et Géricault. On n'est plus dans cet ordre-là. On est dans un autre type d'expérience artistique, ce qui fait que du coup, la figure de l'artiste est beaucoup plus la figure soit d'un entrepreneur, soit d'un travailleur social. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la médiation sociale, souvent fort bien payé, parce que les communicateurs, mais c'est un autre, donc c'est le sens de la petite phrase en rouge que j'ai mis dessus, ce qui nous oblige à repenser complètement à la fois l'art et complètement l'esthétique aussi. C'est-à-dire que vous avez la chance, et en même temps c'est une, je dirais que c'est un peu une tristesse, mais vous avez la chance de vivre dans une époque de l'art qui est complètement nouvelle par rapport à ce qu'on a pu connaître au 19e siècle, au 20e siècle. Vous allez basculer dans une autre époque de l'art et de l'esthétique, et je dirais que du point de vue théorique, ce qui est passionnant, c'est que tout reste à faire, parce que beaucoup de choses ne sont pas du tout pensées. Nous continuons à réfléchir à l'art d'aujourd'hui avec les catégories que nous avions du 18e, du 19e siècle et du 20e siècle. Mais les choses ont totalement changé. On est, et cela dit, c'est quand même de l'art, hein, c'est quand même de l'art, c'est quand même de l'expérience esthétique, mais les dimensions ont complètement changé. Voilà, je ne m'arrête pas. C'est un peu long. On va passer deux ou trois morceaux du livre. Nous allons commencer par passer Philip Glass, une minute de Philip Glass, sur le côté répétitif, ennui et saturation musicale. Hein. C'est